Et après, un podcast de Louise et du Pôle Louvain.
Un kilo de perdu, puis encore un autre, et encore un autre, jusqu'à parfois moins 15 kilos en quelques semaines. Ça, c'est une des conséquences de l'anorexie, l'une des TCA, trois lettres qui signifient trouble du comportement alimentaire. Cet ensemble de maladies peut être extrêmement dangereux pour la santé, que ce soit physique ou mentale. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes en sont diagnostiquées. Et parmi eux, ce sont les jeunes qui en sont les premières victimes. La faute notamment aux réseaux sociaux, à la société de manière générale qui met en avant des corps toujours plus minces et qui associe maigreur avec beauté, une idéalisation du corps mince et qui percute en plein fouet des jeunes, parfois mal dans leur peau, avec des complexes ou bien qui n'arrivent pas à s'accepter. Alors comment est-ce qu'on vit avec un TCA? Quelles sont les conséquences sur notre vie sociale et surtout, comment on s'en sort de ces maladies? Toutes ces questions, on les a posées à Noéline, une jeune de 18 ans touchée par les TCA, en particulier par l'anorexie. Je m'appelle Julien et vous écoutez Et après.
L'élément déclencheur, c'était le Covid. Enfin, j'ai eu le Covid et pendant 11 jours, j'étais clouée à mon lit et j'ai perdu l'appétit. Mais déjà bien avant ça, j'avais des problèmes de confiance en moi, j'avais des problèmes avec mon corps, avec ma relation avec la nourriture, avec le fait que j'avais pris du poids dû au Covid. J'avais pris environ 10 kilos sur un an, c'est quand même beaucoup. Mais voilà, quand tu passes de quelqu'un qui est quand même assez sportif à plus rien faire dû au Covid, ça se manifeste. Et j'étais un petit peu celle qui mangeait de tout et de rien et qui disait « oui, mais moi j'aime trop la nourriture que pour avoir un problème avec ». Enfin voilà, c'est le cliché en soi de la personne qui tombe dans l'anorexie. Mais moi j'ai toujours été consciente en fait qu'à partir du moment où j'ai commencé vraiment à diminuer sérieusement les quantités de ce que je mangeais, c'est qu'il y avait un truc. Il y avait un truc, et quand j'ai continué à diminuer et quand j'ai continué à voir que je perdais du poids et que ça me plaisait, c'est que c'était pas une bonne chose. Et quand les gens me disaient « Ah, c'est bien, bravo, t'as perdu du poids !» Bah oui, non, c'est pas une bonne chose, en fait. C'est même... voilà. Donc, après le Covid, j'ai perdu l'appétit. Et là, je pense que sur 2 mois, j'ai perdu 16 kilos. Donc, ce qui est assez énorme, quand même. Et ce qui alarme mes parents, forcément, parce que oui, je skip des repas, j'ai tout le temps super froid, je suis très très faible, très blanche aussi, je dors pas bien, j'ai vraiment une énergie qui est moindre. Je m'étais déjà terriblement isolée. À partir de la maladie, un des symptômes, c'est que c'est l'isolement. Moi, je voyais plus personne, je sortais plus, je voyais plus les gens. À l'école, pendant les pauses, j'étais enfermée à l'intérieur. À midi, je mangeais seule dans un local. Parce que du coup, voilà, l'école avait pu mettre des choses en place pour que moi, je me sente bien. Je pense que la personne que je voyais le plus et que je continuais à voir, c'était ma meilleure amie. Quoi qu'il se passe dans cette maladie, elle a été là pour moi.
Un isolement social et des relations qui sont aussi un peu plus tendues à la maison.
Dans un premier temps, c'était hyper oppressant en fait d'avoir des gens qui te regardent et qui te disent « Non, mais il y a un truc qui va pas. » Genre, tu manges pas. Et toi, t'es là, bah oui, mais je sais, et je veux que vous me laissez tranquille. Et donc, souvent, avec cette maladie, t'es contre les gens qui veulent t'aider. Très fort. Et donc, j'ai été très fort contre mes parents. Je mentais beaucoup à mes parents par rapport à... enfin, pas énormément vis-à-vis de la nourriture, mais vis-à-vis du comment je me sentais, etc. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes atteintes de TCA qui mentent vis-à-vis de la nourriture. J'avais plus confiance en mes parents. Parce que je pouvais plus les laisser cuisiner pour moi. S'ils touchaient à ma nourriture, je pétais un câble. Donc vraiment, j'étais contre eux non-stop. C'était tout le temps des engueulades, tout le temps. C'était horrible à la maison. C'était pas. C'était moi, je voulais plus rentrer à la maison. Je voulais plus être à l'école. Je voulais plus être nulle part, quoi. Donc moi, je rentrais, j'étais dans ma chambre ou dans la cuisine parce que forcément, j'avais tout le temps froid dans la cuisine et un poêle à pelet. Donc la cuisine c'était devenu ma nouvelle maison. Et mes parents ils me regardaient des fois, mais c'était là, mais sors de là quoi. Et je pouvais pas, c'était, du coup j'étais tout le temps contre eux. Mais en fait je pense qu'il y a un truc qui m'a marqué, qui a fait que moi je décide de leur laisser plus de confiance. Et que je décide aussi d'aller à l'hôpital pour les décharger de ça. C'est il y a une fois, j'étais dans les bras de ma maman et je hurlais. Mais vraiment, je hurlais que j'en pouvais plus. Et ma maman, elle était presque en pleurs à côté de moi. Et mon papa, il était à côté et il me regardait. Mais je voyais vraiment leurs yeux qui étaient désolés. Et ça m'a mis terriblement mal, quoi. J'étais là et j'étais... Je pleurais que j'en pouvais plus. Je tremblais tellement être énervée, me demander un effort. Et je me souviens qu'après, ma maman, j'étais dans ses bras, elle me fait mais je sais que t'en peux plus. Et on veut t'aider, tu vois. Tu dois comprendre qu'on veut t'aider. On n'est pas là pour être contre toi. On est là pour t'aider. Et donc moi je dis là à partir de ce moment-là j'ai été beaucoup plus c'était beaucoup plus facile et c'est là que j'ai vraiment dit ok mais je veux pas leur faire subir ça tout le temps donc je veux qu'ils puissent retrouver une vie plus ou moins normale et que ma sœur je voulais que mes parents puissent s'occuper d'elle parce que j'étais devenue l'élément principal de la famille ma sœur elle a été laissée de côté très très fort et donc c'est pour ça que je me suis dit ok l'hospitalisation ça va pour moi ça va être la solution parce que ça va permettre à mes parents d'avoir un poids en moins, entre guillemets. Et moi, ça va me permettre d'être de mon côté et de faire bataille sans avoir cette pression de me dire que mes parents allaient devoir subir ça.
Une hospitalisation qui passe tout d'abord par un passage chez une diététicienne et chez une psy.
Je vais voir une psy qui me suit toujours maintenant, d'ailleurs. Et donc, en fait, là, moi, je lui explique tout à la psy. Je lui dis, voilà... Depuis l'été, il y a eu ça. Ça, c'était en décembre, si je me souviens bien, décembre 2021. Et donc, je vais voir ces petits. Et ensuite, je commence un suivi en ambulatoire. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui me déplace au rendez-vous avec ma psychiatre, avec ma diététicienne, avec le thérapeute familial, etc. Et je fais ça pendant quelques mois, mais ça change rien. Voir si pas ça empire la situation. Ça s'est vraiment très très mal passé avec ce groupe de... C'était vraiment tout un groupe. Moi, j'ai fini par me faire... Mais je peux dire tout à fait traumatisée par la diététicienne. Elle a eu des propos vis-à-vis de moi et la maladie qui étaient tout à fait déplacés. Et d'ailleurs, je pense que s'il va falloir beaucoup pour que je retourne chez une diététicienne après ça. Mais voilà, c'était très 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 difficile.
Noéline décide donc d'arrêter de voir cette diététicienne et elle met un terme à son suivi en ambulatoire. Mais elle a conscience du problème et elle veut passer à l'échelle supérieure, une hospitalisation complète au domaine à Braine-l'Alleud.
Le domaine, c'est un hôpital psychiatrique. Ça englobe vraiment beaucoup de choses, mais eux, ils ont toute une aile dédicacée au TCA. Et donc, quand j'ai été acceptée là-bas, donc je pense que c'était 2 semaines après, ils m'ont appelée le lundi pour rentrer le mercredi. Donc, ouais, c'est assez difficile, même quand on t'appelle, déjà, tu comprends pas, ils te disent oui, c'est le domaine, le centre hospitalier à Braine-l'Alleud, et toi, j'étais toute seule avec mon papa, et là, je regarde mon papa, je fais, papa, c'est l'hôpital, et puis il me regarde, il fait, ok, bah viens, mets en parleur, et voilà, ils me disent, voilà, on a une place qui se libère, tu peux rentrer mercredi. Waouh. Ah, moi, j'étais pas prête, hein. En soi, je pense que ça m'a sauvée. Parce que si c'était pas ça, c'était les soins intensifs avec une sonde. Et je pense que la sonde, jamais je m'en serais sortie. Parce que je pense que ce qui a fait que je m'en sois sortie aussi bien et aussi rapidement, c'est le fait que ça venait de moi-même. Parce qu'aller à l'hôpital, c'était mon choix. C'était moi qui ai fait la demande. Quand j'ai guéri là-bas, quand j'ai mangé à chaque fois, il n'y avait pas de pression. Donc ça, par contre, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont jamais... Il y a des moments où voilà, t'as des règles, t'as des choses très strictes. Mais donc voilà, moi je sais que l'entièreté de mon poids, c'est moi qui je l'ai repris par moi-même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée. Je pense que si j'avais eu une sonde, jamais ça aurait été pareil, je pense.
Mais cette hospitalisation, ce n'est pas une partie de plaisir. Ça reste compliqué, long et parfois très ennuyant.
Alors c'était... T'as des horaires assez stricts. Donc c'était tous les matins, 8h, petit déjeuner, obligation d'être là. Entre midi et midi et demi, il y avait le repas. Ah oui, il y avait la collation à 10h aussi. Il y avait le repas à midi, collation à 16h, souper à 19h. Et c'était comme ça tous les jours. Le temps est long et lent là-bas. Ça manquait concrètement d'activité et d'occupation, quoi. C'était entre chaque repas, on attendait juste le prochain. La plupart du temps, on dormait. C'était long, c'était lent. On n'avait pas de sortie organisée, on n'avait pas le droit à avoir nos téléphones. On les avait que à partir de 16h et le week-end 10h. On ne pouvait pas être debout, on ne pouvait pas rester debout, on ne pouvait pas se voir, aller dans les chambres l'une de l'autre, on ne pouvait pas passer trop de temps ensemble. On pouvait éventuellement aller marcher dehors, mais marcher dehors, t'as vite fait le tour du domaine. Donc, t'avais des activités qui étaient à disposition, entre guillemets, mais c'était... Enfin, c'était pas assez mis en valeur. Je trouve que c'était des activités, c'est bien, certes, mais Enfin, quand tu voyais les ados qui partent en sortie shopping, parfois, ben, nous, on est là. Enfin, ouais, nous, on peut pas, quoi. Parce qu'on peut pas, être debout, on peut pas faire du sport, on peut pas. Enfin, faire du sport à partir d'un certain poids, tu peux. Mais c'est encore, c'est très restreint. On avait parfois des ateliers, mais des trucs par rapport. Enfin, des groupes d'échange de paroles, des ateliers face au miroir, etc. Où on doit se regarder dans un miroir, analyser, voir. Parce que ça, c'est pour la dysmorphophobie. Parce que la dysmorphophobie, c'est quelque chose qui est énormément présent quand t'as atteint TCA. Donc, c'est-à-dire que tu ne vois pas ton corps tel qu'il est. Moi j'en ai pas eu pendant que j'étais malade, j'en ai maintenant parce que comme j'étais consciente que j'étais malade, ben, je voyais bien la maigreur, je savais plus me regarder dans le miroir parce que je ressemblais plus à un humain, donc voilà. Et maintenant, c'est maintenant que je suis atteinte de dysmorphophobie parce que j'ai repris un poids normal, mais j'arrive pas à dire si mon poids il est bien, si je suis mince, si je suis pas mince, si je suis dans la norme, si je suis grosse. Et mais du coup on avait cet atelier là. Et puis, ouais, on avait quelques groupes de paroles, des trucs comme ça, mais c'était... Je sais pas si c'était vraiment utile, en fait, au final. Parce que, enfin, moi, personnellement, je sais que je m'en serais très bien sortie sans. Peut-être que d'autres personnes, c'est utile. Mais bon, enfin, voilà, dans les gens que je connais, je sais que la plupart, ça les saoulait, plus qu'autre chose. Parce que c'était... Enfin, voilà, je pense que c'est des ateliers qui sont, entre guillemets, très simples. Comparé à la maladie et comparé à la complexité que, des choses que, qu'on ressent. Mais enfin voilà, je pense que de manière générale, c'est une chose pas si mal d'avoir ça.
Et qui dit hospitalisation complète, dit également école mise entre parenthèses. Heureusement, des cours sont donnés sur place, au domaine. Des cours qui n'ont finalement pas vraiment été nécessaires pour Noéline.
J'ai eu 2-3 cours au domaine parce qu'il y a une école sur place, mais vu que... De manière générale, j'avais des bons points. J'avais au-dessus de 70 de moyenne. Et donc, quand j'ai arrêté l'école, avant d'aller au domaine, bah, j'ai eu réunion avec la direction, etc. Et ils m'ont d'office dit, tu passes ton année. Même si j'ai pas vu la matière, c'était déjà des acquis. Et si pas, bah, il y avait des choses que j'ai rattrapées pendant l'été. Mais j'ai pu passer en réto sans encombre.
Finalement, Noéline arrive à remonter la pente. Et elle commence tout doucement à reprendre du poids.
J'ai vécu là-bas pendant 3 mois. Et à partir d'un certain poids et à partir d'une certaine phase, tu peux rentrer chez toi éventuellement le week-end. Mais c'est des horaires hyper particuliers. Enfin, je pouvais rentrer qu'à partir de 14h et je devais être là-bas, retourner à 11h45 le matin. Donc c'était, enfin voilà, c'était hyper dur. Moi, je me souviens qu'à chaque trajet où je devais retourner là-bas, je pleurais. Parce que ben, au bout d'un moment, en fait, t'as envie d'être considéré comme quelqu'un de normal. Et en hôpital psychiatrique, tu l'es pas. Parce que si tu y es, c'est que t'es malade. Et donc, quand je retournais chez moi et que je voyais les gens autour de moi et j'étais là, genre, je pouvais manger avec tout le monde, c'était génial. Hein, je mangeais avec des personnes qui étaient pas malades, quoi. C'est, j'avais pas des gens qui étaient en train de pleurer devant leur assiette à côté de moi à chaque repas.
À ce moment-là, Noéline dit stop. Elle décide d'arrêter son hospitalisation pour retourner vivre chez elle, définitivement.
Normalement, t'es censé avoir l'accord des médecins, etc. pour rentrer chez toi. Moi, je suis rentrée une semaine à l'avance, donc j'ai signé ma décharge. Enfin, ma maman a signé ma décharge. De base, on était censé voir mon psychiatre le matin et il était pas là. Et donc, il m'a dit, on l'a eu par appel. Et là, il dit, oui, mais moi, j'aimerais bien te garder encore une semaine et tout ça. Et là, ma maman, elle me regarde et elle me fait, est-ce que tu veux vraiment attendre une semaine? Et je dis, non, je veux rentrer. Et donc, ma maman signe. Et là, du coup, on me dit « Ok, tu peux partir à partir de 14h ». Donc, je passe tout mon temps à ranger ma chambre. C'était après 3 mois, j'avais toutes mes affaires, j'avais toute ma vie là-bas. Donc, c'était... Je me souviens, j'avais des bacs et des trucs et ma valise, elle débordait. En plus, j'avais mis une belle robe et tout. J'étais trop contente, il faisait beau, c'était trop, trop chouette. C'était le 3 juin. Et du coup, c'était mes grands-parents qui venaient me chercher et je descends à 13h15 et vraiment au moment où je sors, je passe la porte de l'hôpital, ils étaient là. La voiture est arrivée. Je me souviens, j'ai presque fondu en larmes tellement j'étais contente de les voir et de me dire, cette fois-ci, ils repartent pas sans moi, quoi. Et donc, du coup, on a fait un petit tour avec eux le temps passe jusqu'à 14h, puis on a mis tout dans ma voiture et puis j'ai su dire au revoir à mes amis. Et puis voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai fait la surprise à ma petite sœur de rentrer. Parce que, en plus, mon papa et ma sœur avaient le Covid à ce moment-là. Donc ils étaient en confinement. Et justement, je suis rentrée. Et du coup, j'ouvre la porte. Parce que mon papa avait dit, ok, tu ouvres la porte et tu le dis pas. J'ouvre la porte et j'ouvre la porte du salon. Et puis ma sœur qui me regarde fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, j'arrive, je fais, je suis rentrée. Elle fait, t'es rentrée? Et je dis, ah oui, je suis rentrée. Et du coup, elle ne peut pas me faire de câlin vu qu'elle avait le Covid. Alors, elle a attrapé mon papa et lui a fait un câlin. Et elle a fait, comme ça, c'est comme si je t'en faisais un. Et puis, Et puis non, ça c'était super chouette comme moment. Et puis non, je pense que le retour à la maison était vraiment bien parce que mes parents étaient assez... Enfin, ils étaient attentifs, mais en même temps pas trop parce que voilà, je pouvais manger ce que je voulais. Et puis c'était pas les mêmes choses tous les repas parce que là-bas, c'était tartines matin, 4h et au soir. Donc c'était beaucoup de tartines. Et donc là, j'étais hyper contente de pouvoir rentrer et manger autre chose que des tartines. C'était... Non, franchement, c'était super chouette. Et puis non, et juste le plaisir de pouvoir remanger. Et c'est trop bien, quoi. Et tu rentres et puis t'es là... Waouh, je regoute des choses que j'avais plus goûtées depuis des mois.
Un bonheur incroyable d'être de retour. Mais après l'ivresse de joie de son retour à la maison, quelques problèmes refont surface.
Dans un premier temps, ça évolue bien. Genre, j'ai pas de problème, tout se passe bien et tout ça. Et puis la dysmorphophobie revient petit à petit. Et là, je panique. Parce que du coup, je vois en fait que j'ai repris un corps, j'ai repris des formes, j'ai repris... Enfin voilà, j'avais plus de muscles en soi, parce que les muscles, c'est la première chose qui part quand t'es en sous-alimentation, c'est tes muscles. Et donc j'avais plus que de la graisse. Et encore, j'étais vraiment pas grosse. Et du coup, gros moment de panique. Et là, je sais pas, dû à ce moment de panique, quoi que je mange, mon corps perd du poids. Et je perds du poids, mais à l'infini. Hein. Je suis presque redescendue jusqu'à 49 kilos, alors que j'étais remontée jusqu'à 57. Donc j'ai presque reperdu 10 kilos sur un temps assez... je pense que c'est à partir de septembre jusqu'à genre décembre. J'arrêtais pas de perdre, vraiment tout le temps. Et puis après, là, je suis remontée à un poids plus ou moins stable. J'étais environ 52 kilos. Je suis restée jusqu'à 52, jusqu'à fin de l'année et tout ça. Et là, ça allait. Mais de nouveau, toujours un peu ce truc de... Je comprenais pas ce que mon corps faisait, quoi. Quoi que je mange, j'y perdais. Et on sait toujours pas ce qu'il y a eu, mais je pense que c'est juste le corps qui stresse et qui est en mode waouh, il se passe trop de trucs d'un coup tout va bien. Pourquoi ?
Mais malgré tout, aujourd'hui, ça reste encore un peu compliqué parfois.
J'ai eu énormément de stress début de cette année scolaire. Et donc, dû au stress, j'ai commencé à vomir. Ce qui m'était jamais arrivé avant. Et en fait, c'est devenu un cercle vicieux parce qu'en fait, du coup, je vomissais. Et donc, j'avais plus une bonne alimentation, vu qu'au final, j'avais plus ce qu'il fallait. Et donc, j'ai fait une ou deux crises de boulimie. Et là j'ai paniqué, j'ai fait waouh. Pas vraiment, non, c'est pas une bonne idée, c'est pas un bon plan. Donc là, maintenant, il y a toujours encore un peu de panique. De nouveau, quand je stresse un peu trop, c'est toujours les vomissements qui reviennent. Mais voilà, j'essaye que ça reste un maximum sain. Puis même parfois, quand j'ai ce truc de « Waouh, j'ai mangé beaucoup, je vais vomir », non, c'est pas grave, ça arrive. Il y a des gens tout le temps qui ça arrive de manger beaucoup, c'est un anniversaire, c'est une soirée, je sais pas, t'as faim. Puis même quand t'es indisposé en tant que fille, t'as beaucoup plus faim aussi. Donc voilà, je pense que j'essaye de me baser surtout sur la normalité et me dire « Ok, même parfois, je dis à mes amis, est-ce que toi, ça t'arrive ?» Et ils me disent « Mais oui, ça m'arrive. » Je dis « Ok, ça va, tout va bien. »
Et ce qui aide aussi beaucoup Noéline, c'est de regarder en arrière, de repenser à son état d'il y a quelques années.
Je pense que ce qui m'aide le plus, c'est le fait de me dire que, enfin, c'est le fait de juste me rappeler l'état dans lequel j'étais. L'état dans lequel j'étais, et je pense, un truc qui m'a le plus traumatisé, c'est le fait d'avoir froid. J'avais froid tout le temps. J'avais genre 4 couches en bas, j'avais un legging, un collant, 3 paires de chaussettes, 2 pantalons, et puis au-dessus, même chose, quoi. Et avec ça, j'avais encore froid. Et il y avait plus de 25 degrés dans ma chambre, tout le temps. J'avais si froid, j'étais si fatiguée, je dormais pas bien, aucune énergie, et puis même la sociabilisation. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti, et là, c'était tout l'inverse. Et donc, je me dis, je pense que c'est vraiment à chaque fois que ça va pas, je me mets une ou deux claques, et je suis là, waouh. On retourne pas là, c'était pas fun. Et puis même vis-à-vis de ma famille, hein, quand j'ai vu l'état dans lequel ils étaient, et je me souviens même, enfin, que ce soit toute ma famille, et puis même des amis proches à moi qui m'ont connu enfant, je me souviendrai toujours. Il y a une personne qui m'a vue, elle m'a regardée, elle m'a fait, genre vraiment, j'ai vu son regard devenir blême, quoi. Et là, j'étais là, waouh. C'est ce genre de choses qui me marquent et qui me font dire que... Ouais, je veux pas y retourner.
Au final, quand elle fait le point sur tout ce qu'elle a traversé et quand elle voit où elle en est aujourd'hui, Noéline ne tire pas forcément que du négatif de cette maladie. Au contraire, il y a même du positif.
J'en ai retiré quand même beaucoup de choses de positif. Malgré tout, ça apprend. ça apprend beaucoup de choses en fait. Ça apprend beaucoup sur soi-même. Tu te dis, ok, maintenant je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont déclenché ça. Ça m'a appris beaucoup de choses vis-à-vis de moi. Ça m'a appris beaucoup de mes limites. Ça m'a appris pas mal de choses aussi sur la société, etc. Sur le fait que, bah, on est quand même malgré tout très, 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 très influençable et très influencé par les réseaux sociaux. Donc moi je me souviendrai toujours quand j'étais jeune et que je voyais ces filles sur les réseaux et j'étais là, waouh, moi tu ressembles à ça, mais c'est tellement facile de retoucher, c'est tellement facile de photoshopper que j'idéalisais des gens qui, si ça tombe, étaient aussi malades. Et pour la plupart, ça s'est révélé vrai même. Je me dis, bah, maintenant c'est bien parce que je peux sensibiliser les gens autour de moi aussi. Et aussi aider les gens à comprendre les TCA. Parce que moi, quand j'en avais, le nombre de commentaires déplacés que j'ai eu, je pense qu'un qui m'a le plus marqué, c'était « Si t'as arrêté de manger, pourquoi tu remanges pas ?» Et j'étais là « Ouais, on en est là quand même !» Je pense que c'est l'éducation au niveau des TCA, elle est très loin.
Mais l'un des plus gros enseignements, il vient de certaines de ses amies atteintes elles aussi de TCA, des amies qu'elle a pu aider grâce à son expérience.
J'ai pas mal de mes amis qui sont atteints, qui ont été atteints de TCA. Plusieurs de mes meilleures amies même. Moi, en tout cas, je sais qu'il y en a une qui m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça encore, « Tu m'as sauvée. Sans toi, jamais, 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 j'en serais sortie. » Et ça m'a touchée, mais si fort, parce que je me dis, waouh, c'est... Waouh, j'ai sauvé ma copine, quoi, c'est ouf. Donc, je pense que ça m'a appris à aussi être plus attentif. Aux gens et à prendre plus soin des gens autour de moi, mais aussi à comprendre que ben, quand les gens ils veulent t'aider, il faut plus souvent accepter cette aide. Parce que quand t'es atteint de TCA, tu rejettes toute l'aide qu'on te donne. Et il y a vraiment rien de rien que tu veux et tu n'acceptes rien et c'est très difficile. Donc non, je pense que ça m'a appris à accepter l'aide et à accepter le fait que ben, tout le monde n'est pas contre moi.
Alors justement, comment aider les personnes atteintes de TCA? Quels conseils peut-on leur donner?
Je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'était une phrase venant de quelqu'un qui m'a très très fort touchée. C'était une personne que j'avais vue deux fois dans ma vie, en fait c'est une collègue de mon papa, qui m'a écrit une lettre en me disant que, alors que j'étais vraiment très très bas dans la maladie, je ressemblais plus à un humain, pour moi j'étais un zombie. Et cette personne m'a dit, tu fais partie de ces personnes qu'on n'oublie pas, qui quand on les a vues une fois, nous marquent pour toujours. Et quand tu rentres dans une pièce, c'est comme si t'étais un rayon de soleil. Et là, j'ai fondu en larmes en lisant cette lettre, parce que j'étais au plus bas de la maladie, et pour moi, j'étais invisible. J'essayais de me rendre invisible, de me rendre le plus petit possible, et de vraiment... Mais je voulais plus qu'on me voie. Et en fait, quand elle m'a dit ça, moi, au départ, ça m'a fait un choc, parce que je me suis dit, waouh. Ben, en fait, on me voit toujours, et en fait, je dégage toujours quelque chose de positif. Et donc, ben, moi, ça m'a juste... Bah, ça m'a fait réaliser qu'en fait, je suis encore là. Je suis encore là et oui, les gens atteints de TCA, vous êtes encore là. Vous êtes encore présents et il faut accepter l'aide. Parce que c'est tellement important, les gens sont pas contre vous. C'est contre la maladie qu'ils sont et la maladie, elle veut votre mort. L'aide qu'on va vous proposer, l'aide qu'on va tenter de vous apporter, elle est hyper importante. Il faut l'accepter, même si c'est maladroitement, même si c'est... Les gens ne vous veulent pas du mal. Il faut arriver à lâcher prise. Et c'est tellement compliqué quand on atteint TCA de lâcher prise, surtout d'anorexie. En lâchant prise, en acceptant l'aide et en se rappelant que c'est pas nous. C'est pas comme ça qu'on peut aller mieux, c'est comme ça qu'on peut commencer à aller mieux. C'est le début. Je pense que c'est le premier step. Après, ça se viendra petit à petit, mais il faut rester fort. La maladie, elle est têtue, sois-le encore plus.
Et après, un podcast de Louise et du Pôle Louvain. Écrit et raconté par Julien Malpa. Habillage sonore, Samy Andoura. Montage, Julien Malpa. Mixage, Nicolas Castorman.
Ok, ça, c'est pour le parcours de Noéline. Un parcours qui a connu des hauts et des bas, mais qui se conclut tout de même sur une note positive. Après toutes ces épreuves, Noéline a pu apprendre quelque chose, le fait d'accepter de l'aide. Elle, on le rappelle, elle est touchée par l'anorexie et la dysmorphophobie, mais les TCA, ce n'est pas que ça. Ces trois lettres englobent en réalité plusieurs maladies, et pas toujours des maladies qui font perdre du poids. C'est ce que nous explique le docteur Mathieu Van Leer, psychiatre au centre hospitalier Le Domaine.
Il y a des critères diagnostiques bien précis, mais globalement, les symptômes typiques, c'est de ne pas accepter son image corporelle, de commencer à perdre du poids en mangeant de moins en moins. Et quand on franchit un certain seuil de sous-poids, ça s'emballe, il y a des distorsions cognitives qui apparaissent, et donc des perceptions de l'image corporelle qui deviennent de plus en plus distordues. Et la personne ne sait plus s'arrêter de perdre du poids et de réduire de plus en plus son alimentation. Ça, c'est un des versants. Et alors, il y a l'autre versant, qui est le versant anorexie-boulimie, à force de frustrer son organisme en faisant de la restriction alimentaire, on peut parfois avoir des débordements dans l'autre sens, et donc ça peut créer des crises d'hyperphagie, parfois pas compensées, ou alors compensées avec des vomissements éventuellement, des prises de laxatifs, de l'hyperactivité, et une restriction encore augmentée à côté. Donc parfois on arrive à des cas de figure où la personne ne mange quasi plus rien, et fait des crises de boulimie avec des vomissements associés, et donc elle ne se nourrit entre guillemets que de ça. Il y a aussi le versant boulimie pure, où là les patients ne sont pas forcément en sous-poids, parce qu'elles compensent. Parfois, il y a des vomissements, parfois pas, mais finalement, c'est les patients qui finissent par atteindre des états de surpoids, voire de l'obésité. Ça, c'est aussi un des autres versants.
Plusieurs versants autour de ces TCA, des maladies dont les cas se sont multipliés depuis la crise du Covid.
Absolument. Effectivement, il y a eu beaucoup de cas qui se sont déclenchés pendant cette période. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une augmentation de toutes les pathologies en psychiatrie d'une manière générale depuis cette période Covid. Mais c'est vrai que lié à la restriction au niveau de l'activité physique durant cette période, ou bien effectivement le fait que il y a des gens qui l'aient contracté à ce moment-là et qui aient eu des problèmes au niveau de goût ou d'appétit modifié, ça a pu générer aussi des problèmes de prise alimentaire, et donc en effet ça a été un facteur qui a fait que les demandes ont vraiment augmenté depuis lors.
Dans cet hôpital, les patients peuvent passer par deux types de prise en charge, soit une prise en charge de jour uniquement, ou bien une prise en charge à temps plein, 24 heures sur 24, parfois pour une durée assez longue.
Il n'y a pas de durée minimum ou maximum, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. C'est vrai que globalement, ce sont quand même des hospitalisations assez longues, parce que il faut bien savoir que quand on doit leur faire reprendre du poids, imaginons qu'on doit, je prends un exemple, leur faire reprendre 10 kilos, voire 15 kilos, ben, on ne peut pas y aller trop vite non plus. Alors d'une part, sur le plan physique, parce que réalimenter trop rapidement une personne dénutrie, ça peut engendrer beaucoup de conséquences physiques, mais également sur le plan psychologique, elle serait incapable de, par exemple, en moyenne, pour vous donner une idée, on leur demande de prendre plus ou moins 700 grammes par semaine en moyenne, et du coup ça fait que le temps hospitalier doit être quand même relativement long. En général, on n'a pas d'hospitalisation de moins d'un mois, et le plus long que j'ai déjà connu, c'est pas même carrément une hospitalisation de un an, c'est déjà arrivé.
Rappelez-vous, tout à l'heure, Noéline nous expliquait que de son côté, elle était restée 3 mois ici au domaine. Mais elle nous a également expliqué que pendant son hospitalisation, elle trouvait le temps particulièrement long, avec parfois un ennui profond. Et elle n'est pas la seule à avoir eu cette impression. Et si je vous disais qu'en réalité, c'est quelque chose de voulu, une stratégie de la part des médecins?
C'est vraiment voulu. Alors déjà, il faut savoir aussi que c'est une question de contraste, parce que ce sont souvent des patientes qui, à l'extérieur, bon, à part quand elles sont dans des états de dénutrition tels qu'elles n'ont plus aucune énergie et qu'elles ne savent quasi plus rien faire, mais sinon, ce sont des patientes qui sont dans une certaine hyperactivité non-stop, donc elles sont très actives. Et donc, c'est vrai que le simple fait de retourner à un rythme de vie normal, parce qu'il y a quand même des activités, hein, entre les repas, elles peuvent faire toute une série de choses, mais pas des activités, je veux dire, physiques, qui sont source de dépenses d'énergie excessives. Et donc, c'est vrai que c'est un vécu qu'elles ont assez souvent, de trouver le temps long, de s'ennuyer. Mais donc, il y a une réalité quand même qui est là, mais en plus de ça, c'est une stratégie également. Par exemple, pour vous donner une idée, après le repas du midi, on leur demande de rester dans une salle entre elles et de trouver une activité repos, par exemple du dessin, de la lecture, que sais-je, enfin, et de rester assise, par exemple, parce que sinon, si on ne mettait pas cette stratégie en place, après les repas, on aurait toutes les patientes qui commenceraient à faire de l'hyperactivité, faire des tours du parc, etc. Et donc, c'est une manière de cadrer. Donc, ces moments-là, évidemment, elles les vivent au début assez mal, mais au bout d'un moment, elles finissent par se réadapter et réabaisser leur niveau d'activité, et elles le vivent mieux en fin d'hospitalisation.
Vivre mieux en fin d'hospitalisation, retrouver une vie la plus normale possible et tout simplement guérir de la maladie. Clairement, c'est pas simple. Alors pour y arriver, il est important de prendre conscience de sa maladie et surtout accepter l'aide qu'on nous propose. L'aide de nos proches, mais surtout l'aide médicale, comme celle du docteur Vanleer au domaine. D'ailleurs, on lui laisse le mot de la fin.
De nos jours, on est vraiment dans un changement de paradigme par rapport à, bien, je dirais peut-être 30, 40 ans, où on essaie vraiment de faire en sorte de faire passer ça comme une maladie, donc c'est-à-dire un processus pathologique qui s'est développé indépendamment de la volonté. Et donc, l'idée pour moi, c'est d'essayer le plus vite possible, que ce soit les parents, l'entourage, n'importe qui, l'école parfois, d'orienter vraiment ces patientes-là vers des professionnels de santé. Parce que au plus vite on va consulter quelqu'un, au plus vite on va pouvoir justement déculpabiliser la situation et faire bien comprendre à la patiente que ce n'est pas une question de volonté, pas une question de faiblesse, de fragilité, ou etc., etc. C'est comme, voilà, ça leur est tombé dessus, comme n'importe quel autre type de maladie. Et donc, une prise en charge précoce permet réellement de démarrer une thérapie le plus vite possible et de ne pas permettre à la personne de ne pas rester isolée avec toutes ces problématiques et une certaine honte qu'elles peuvent ressentir à avoir développé ce trouble alimentaire. Donc, ce serait ça mon conseil, c'est d'orienter vraiment le plus vite possible vers un soignant et pour faire ne fût-ce qu'une évaluation et avoir une idée claire de la situation clinique. Mais en tout cas, essayer de médicaliser le plus vite possible les situations.
Et après, un podcast de Louise et du Pôle Louvain.